Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans la centième de Catch Up Raw, la centième, tandis que j'anime Ringside, voilà, Ringside est animé désormais, voilà, parce que tu étais figé. Donc, Ringside qui porte fièrement le goodies essentiel du printemps, c'est-à-dire le t-shirt Catch Up. Exclusif à je ne sais plus sur quelle boutique finalement tu l'as eu ce t-shirt.
Eh oui, pour l'avoir, c'est très simple.
Finis ta phrase. Envoyez des dons, voilà tout ça.
Exactement.
On n'est pas assez businessman pour l'instant pour faire une plateforme de dons, donc voilà, on fait tout gratuitement pour l'instant. Enfin gratuitement. Bref, tout ça pour dire que ce Monday Night Raw, c'est le presque go-home de WrestleMania.
On y est presque. Et
vous allez voir qu'il se passe des choses, pas énormément, mais il se passe des choses dans ce Monday Night Raw. Donc c'était à Cleveland. Dans l'Ohio, c'est ça, hein, si je ne me
trompe pas. Oui, exactement. Voilà. Une bien belle région.
Tout ça a commencé avec Paul Heyman. Attendez, avant que je commence le Monday Night Raw, j'ai complètement oublié de parler d'une chose très importante. C'est 205 Live, mon cher Ringside.
Juste oui, 205 Live.
La parenthèse 205. On s'est fait... Voilà, vas-y.
Oui, alors d'abord un bonjour à Kyrias qui est sur le chat. Salut Kyrias. Oui, donc 205 Live, hein, je me suis fait toper par la WWE. Si vous suiviez, vous avez vu que ça a disparu un petit peu de YouTube. Bah, vous pouvez retrouver les émissions sur PodCloud. Sur iTunes aussi. Et puis si c'est réclamé à corps et à cri, bah, on reprendra incessamment sous peu.
D'accord.
Voilà. Je verrai si je suis motivé vendredi, et puis sinon ce sera victime collatérale de...
Ringside a été attaqué par la WWE, meurtri.
Voilà, je voulais vous faire quelque chose de joli avec des vidéos, mais c'est pas possible.
Voilà, et l'autre petite news dont je devais parler juste avant, en fait, c'était NXT à Paris, qui a été annoncé hier pour une mise en vente aujourd'hui.
C'est ça.
Donc voilà, je ne sais pas à quelle vitesse vont partir les places en ringside. J'imagine généralement les événements WWE, le ringside ça part assez vite, mais le reste des places, je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller. J'ai lu que ça serait 1800 places, donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est sur Ticketmaster. C'est un site de merde, hein. J'ai passé la matinée dessus, c'est horrible, donc vous attendez pas à une expérience géniale, et ils confirment même pas votre placement, si vous avez un placement, une fois que vous confirmez, mais bref, donc voilà, et les places, ça va de 35 à 90 balles pour le ringside. Voilà pour les informations, c'est le 11 juin, et de catch-up, IRM et moi-même y allons, et peut-être l'amiral, je crois, et après, je sais pas. Donc voilà. Oui, on est complètement ruiné en ce moment. Entre...
Là, on est... Alors moi je n'y vais pas, mais c'est vraiment crimes. Le.
Voilà.
Le cœur brisé, hein, que je peux pas y aller.
Ring a des obligations.
Jetez-vous dessus. Voilà, jetez-vous sur ces places, ça va être super.
Voilà. Et donc voilà, vous avez vu vite fait. J'ai pas parlé, mais juste sur l'affiche. Donc on a confirmé. Ricochet, Kairi Sane, Velveteen Dream, Shayna Baszler, Aleister Black. Adam Cole, Nikki Cross et
sa sœur.
Non, l'Undisputed Era. L'Undisputed Era. Je n'ai plus son nom de l'Undisputed Era. Voilà. Mais donc on n'a pas comment? Bobby Fish, il n'y a pas Bobby Fish sur l'affiche, donc j'imagine qu'il compte pas vraiment sur une... Parce que Bobby Fish a eu une blessure il n'y a pas très longtemps, enfin bref. On en parlera dans le NX tout seul, voilà. Du dimanche, puisque j'étais pas là le dimanche dernier, j'étais balade. Bref, on va reparler de ce Monday Night Raw, qui a commencé donc avec Paul Heyman. Et Brock hein, qui arrive cette fois-ci, il commence le show et puis Heyman et ben il nous remontre les images de la semaine dernière hein, de Roman Reigns qui était menotté et Brock Lesnar qui le maltraite. Il annonce que Reigns n'est plus suspendu, mais bizarrement hein, Roman il ramène pas sa fraise ce soir. Et donc il dit bah c'est pas la faute de Lesnar hein, et c'est juste que Roman Reigns bah il a pas les couilles de venir et tout ça. J'avais pas vu au début mais je me suis rendu compte en rematant enfin et en regardant un podcast que il suggère que en fait les l'US Marshall hein, les mecs de la sécurité en fait ils ont été envoyés par ou commandés par Heyman et donc du coup que c'était des mecs je crois que c'était des mecs qui font de la MMA qui s'entraînent à faire de la MMA et qui l'a costumé juste pour tout ce cinéma ce qui est pas... du coup après tu pourrais te dire oui mais enfin comment tout ça se passe dans un ring de la WWE et il y a personne qui sort ni Vince ni Triple H enfin bref donc alors qu'Heyman allait célébrer donc du coup Brock Lesnar une nouvelle fois, hein, you're reigning, defending, undisputed, Roman il arrive une nouvelle fois tout penaud, hein, habillé toujours pareil, et puis il prend une chaise hein, direct, pas pour s'asseoir, hein, pour la mettre dans la gueule de Lesnar, et Lesnar l'évite directement, il va lui placer une grosse souplexe dès le début, ensuite il va le plaquer au sol, et puis lui foutre les escaliers en fer dans la tête, et puis après il ramène au milieu du ring, et il lui fait des chair shots dans le dos pendant une bonne minute. Et puis après il s'en va, après il revient, c'est classique, c'est décidément ils aiment bien faire ça, hein. Lesnar s'en va, Lesnar revient. Et cette fois-ci par contre c'est quand même pour nous faire, pour faire à Roman Reigns un F5 sur les marches en fer qui étaient au milieu du ring. Et Lesnar à ce moment-là monte sur les marches, triomphant avec sa ceinture, Roman, je suis intouchable. Et voilà, c'est la fin de ce segment d'intro. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ringside?
C'était long.
Oui.
Long. Je suis content d'en apprendre plus sur les plans machiavéliques de Paul Heyman. Voilà, Brock Lesnar est costaud, comme on n'aurait pas remarqué jusqu'ici. Et Roman Reigns n'est pas bien malin, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, service minimum. Un bon Brock Lesnar pour le public qui était présent. Ouais. Pour un weekly, c'est quand même sympa. Mais c'était quand même un petit peu booking feignant. Il est toujours populaire, hein, Lesnar. Ils n'ont pas réussi leur coup d'en faire un méchant haï de la foule.
Ouais.
Je comprends pas encore pour lui.
Je comprends pas. La semaine dernière, autant je comprenais la direction qu'il prenait, mais là, cette semaine, en fait, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment booké. Il s'est juste fait massacrer Roman Reigns. Il n'y a pas eu de. J'ai l'impression que. Alors, non seulement dans la storyline, mais peut-être dans la réalité aussi, Lesnar en a rien à foutre. Mais rien à faire. Hein. Mais plus que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, il en a rien à faire jusqu'à ce qu'on lui rentre vraiment dedans. C'est-à-dire que Samoa Joe avait réussi à quand même le sortir un peu de ses gonds. Mais là, Roman Reigns, il en a... Enfin, Lesnar en a rien à faire de Roman Reigns. Hein. Et c'est comme ça que je trouve... On diminue un challenger, en fait. Roman Reigns, il n'a pas de valeur. Enfin, Lesnar te montre clairement Roman Reigns n'a pas de valeur. Il ne sert à rien, etc. Et on sait très bien qu'après, Roman Reigns va gagner. Seulement, on n'aura pas compris pourquoi, quoi. Parce qu'il n'y a aucune... Là, pour le coup, cette semaine, j'ai trouvé ça assez absurde. Ce qu'ils ont fait...
Ouais, puis ça fonctionne pas. Ça va être difficile quand même avec un Lesnar qui apparemment s'en va. Il a l'air un petit peu out of shape. Je sais pas s'il va sortir le grand jeu.
Il est toujours un peu de bide.
Ouais, il est en mode grassouillé là. Hein. Pour 2 semaines de mania, c'est un petit peu inquiétant quand même. Je pense qu'ils sont en train d'aller dans le mur un petit peu. Visiblement, on part sur une victoire de Roman Reigns, hein, comme c'est prévu depuis des années.
Ouais.
Mais ça va pas popper pour lui, ça va pas le transcender. On aura toujours le Roman Reigns à moitié haï du public, et puis cela, ça sera la fin du petit tour de Lesnar jusqu'à ce qu'il revienne, quoi.
Et pourquoi il laisse pas Reigns démonter Lesnar ringside, quoi? Enfin, qui est quand même que Lesnar ait ne serait-ce que l'once d'un doute. Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'il nous raconte, c'est que Roman Reigns, il a la parlotte un petit peu, mais dès qu'il s'agit de se battre, il se fait complètement ramasser, quoi.
C'est ça. Donc, ouais, non, c'est mal foutu, hein, parce qu'effectivement, il arrive avec la chaise et puis il se fait défoncer quand même, Roman Reigns, donc il passe vraiment pour un con, en fait, hein, dans le truc. Donc c'est pas ça qui va le revaloriser non plus auprès du public, pour moi. Ils ont tout faux sur toute la ligne sur ce segment-là, et puis à peu près sur ce qu'ils essayent de faire depuis le début.
En plus, ils auraient pu, justement, ça aurait pu faire partie de l'histoire, comme quoi, de base, il peut pas battre Lesnar, mais avec une chaise, avec une table ou autre, là, il peut le diminuer, il peut le faire vaciller. Là, il y a pas vraiment, là pour le coup, il y a pas vraiment d'histoire. C'est non seulement Lesnar est plus puissant, mais non seulement il est plus intelligent. Donc du coup,
bref. Ouais, c'est ça. Ouais, il passe vraiment pour un bebeu, hein. Pauvre Roman Reigns.
Bon, la suite.
C'est mal barré.
La suite. C'est les filles avec Nia Jax contre Mickie James. Donc du coup, Nia Jax, si vous savez pas, qui a un match à Mania pour la ceinture de Raw contre Alexa Bliss. J'ai noté Mickie James cette semaine habillée en Carmella. Chaque semaine un nouveau style. Naya dans ce match domine forcément, hein, jusqu'à une distraction d'Alexa au bord du ring qui permet à Mickie de la surprendre. Elle blesse plusieurs fois, hein, elle essaie d'attaquer les jambes de Naya et de la blesser. Mais Naya réussit néanmoins, au bout de quelques minutes, à porter Mickie et lui caser une Samoan Drop fatale. À ce moment-là, Alexa tente d'attaquer Naya et se rend compte qu'elle a aucune chance. Elle se tire. Naya crie très fort et très aigu dans le ring en l'appelant Little Bitch à la fin, ce qui n'était sûrement pas prévu par la production puisque c'est passé totalement. Il n'y a pas eu de bip ou quoi que ce soit. Enfin, il y a eu un bip retardé. Je sais pas si tu l'as vu toi sur ta version ring, mais il y avait une censure qui était retardée,
qui était en retard.
Genre le mec il a appuyé sur le bouton, merde. Putain, ils l'ont pas prévu, donc peut-être qu'elle va se faire taper sur les doigts. Et sinon, en fait, ce qu'elle racontait dans le ring quand elle criait sur, c'était n'importe quoi. Elle savait pas, à mon avis, elle savait pas ce qu'elle allait dire. Mais elle a senti qu'il fallait qu'elle dise quelque chose. Donc voilà, bon, il se passe rien de spécial, mais voilà, Naya Alexa, qui est un petit peu le match de autour des ceintures le moins attendu, ouais, hein, de la carte de Mania. Je pense que tu seras d'accord là-dessus. Hein.
Ouais, pas intéressant. J'aime pas l'histoire. J'aime pas les protagonistes.
J'aime pas.
Y a rien qui me. Y a rien à quoi s'accrocher dans tout ce truc-là. Et c'est... bitch, je crois que c'est la seule insulte qu'ils ont le droit d'utiliser à l'antenne.
Ouais, mais c'est un peu autorisé pour les top stars, quoi. Genre Cena, Reigns, ils ont.
Ouais.
Nia Jax, je suis pas sûr qu'elle a le, la carte blanche. mais donc, ouais, non, en fait, une nouvelle occasion de c'est dommage parce que là encore une fois, la semaine dernière, il commençait à lâcher un peu les chevaux sur cette rivalité. Il aurait fallu passer le degré supérieur cette semaine, juste encore un passage ultra violent avec, je sais pas, Nia Jax qui va vraiment attaquer Alexa, qu'on nous ramène un peu de hit dans cette feude, quoi, que ça soit pas juste des filles qui se crient, enfin, l'autre, Alexa qui sort ses petites phrases ou qui fait ses petites manigances et Nia qui fait « Ah, je suis pas contente !» Voilà, un petit peu de testostérone. Même si je sais pas si c'est sexiste comme remarque, mais un petit peu de hit, ça aurait été bien. Mais bon, allez, on va passer à un truc que j'ai trouvé bien meilleur. C'est un package, c'est un petit documentaire sur la préparation de Triple H et Stéphanie pour le combat contre Ronda Rousey et Kurt Angle à WrestleMania. Donc voilà, il commente un petit peu, Achacha chez Stéphanie, il commente un petit peu la rivalité. Donc on les voit s'entraîner comme des grosses brutes, hein, avec des entraîneurs pros et tout ça. Et puis ils disent, Ronda, voilà, elle est mal partie dans la compagnie, mais c'est pas grave, hein, une fois qu'on l'aura battue, et ben on la repackagera, et puis tout ira très bien. C'est l'entraîneur de Steph qui dit oui, Stéphanie, elle est au niveau des meilleurs athlètes dans le monde et tout.
Incroyable.
C'est assez ouf. On y croit un peu plus pour Triple H, hein, quand même, qui est toujours quand même assez impressionnant malgré son âge. Mais donc voilà, hein, un petit docu de 2 minutes qui pour le coup donne un peu de consistance, je trouve, à la rivalité, hein, c'est plutôt bien raconté. Pour une fois, Stéphanie joue pas la heel caricaturale. Hein, elle est. J'ai trouvé que c'était pas mal. T'as trouvé ça comment, toi?
Ouais, non, c'était assez efficace. Bon, faut faire abstraction du fait qu'ils essayent de nous vendre Stéphanie McMahon en tant que combattante de MMA aguerrie. mais sinon, non, pour le coup, c'est plutôt intelligemment monté. On nous montre que c'est le couple un peu qui dirige tout, qui est un petit peu intouchable et qui a à peu près déjà tout prévu. Ça crédibilise pas mal Triple H. Et puis c'était joliment réalisé. Donc là-dessus, on est plutôt sur un segment efficace, effectivement. Puis ça nous change un peu des segments au milieu du ring où ça blablate, etc. J'aime bien le fait qu'il appuie aussi sur le fait que c'est la faute de Kurt Angle, que Kurt Angle est un abruti. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Donc c'est bien, ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a du nouveau dans le chat, tiens?
Rien du tout.
Rien du tout, c'est le désert dans le chat.
Tu vas avoir une explosion
atomique. Ça, c'est parce que y a AB Productions qui diffuse Raw dans très peu de temps. Mais nous on a des horaires fluctuants. Enfin bref, Cédric Alexander et Mustafa Ali contre TJP et Drew Gulak. C'est le retour de 205 Live à Monday Night Raw. Incroyable, ils sont de retour. J'ai pas pris vraiment de grosses notes sur ce match, hein. Ça s'est fini avec un. J'ai noté un quasi squash parce que ça a duré très peu de temps avec Cédric qui tue TJP avec le lumbar check. Et je crois c'est Mustafa qui lui vole le tombé.
Voilà, il fait son 450 inversé et il lui pique le tombé.
Après, ils font. Hey mec,
t'as vu? Voilà, hein, on rappelle aux gens qui regardent Monday Night Raw que ça existe encore, les Cruiserweight, et qu'il y a ce championnat qui va arriver à Mania, donc entre Cédric Alexander et Mustafa Ali. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais il y avait aussi Drake Maverick aux commentaires,
ouais,
et qui nous racontait un petit peu tout ça.
Mais donc voilà, voilà. Drake Maverick qui en ce moment nous présente ça comme l'âme, enfin, et le cœur de 205 Live. Hein. D'un côté, je sais plus qui joue l'âme et qui joue le cœur de 205 Live, mais donc voilà, c'est la Babyface Mania. Mais oui, ça promet un gros match. J'ai du mal avec la carte de Mania à imaginer qu'ils vont aller au-delà du pré-show. Hein. Ça va être dur parce qu'il y a tellement de de matchs de titre et de matchs.
Ça fera peut-être l'ouverture comme ils avaient fait l'année dernière Harris Neville.
Mais peut-être ce serait pas mieux au moins qu'ils aient leur demi-heure en pré-show plutôt qu'avoir 15 minutes dans le show principal. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est mieux s'il leur donne du temps.
Ouais.
C'est clair. Donc vaut mieux qu'ils aient du temps dans le kick-off que pas de temps dans le main.
Oui, voilà. Parce que le truc, c'est que tout le monde se plaint. Enfin, je dis tout le monde. Les smarts se plaignent à chaque fois de « Ouais, vous l'avez mis dans le pré-show. » Tout le monde le regarde, le pré-show.
Mais oui.
Ça change rien. Ça change pas grand-chose. Oui,
c'est pas... Sauf, voilà, si le public n'est pas là, c'est ça qui est un peu chiant.
C'est au niveau de la récompense pécuniaire que ça change. Mais en tout cas, pour les spectateurs, ça change pas grand-chose. Moi, je dirais, les gens qui seront pas là dans le stade à ce moment-là, c'est les gens qui sont pas intéressés par les cruisers. Enfin, je veux dire, s'ils regardent Euro pendant toute l'année, voilà, quoi. Donc, bon. En tout cas, je leur souhaite d'avoir le temps, quoi, pour faire leur match. Et donc, on a, juste après ça, le Miz qui arrive sur scène. Pour Miz TV, le Miz qui commence par un speech où il commence à insulter le Miz Tourage, hein, en train de leur dire « Ouais, mais les gars, ça va bien en ce moment, vous êtes contents hein ?» Moi, je suis pas content, hein, parce que vous faites un peu rien, hein, finalement, à côté de moi, vous êtes comme des sangsues. Hein, et je vous ai sorti là de votre booking tout pourri. Et voilà. Et donc, ça commence à s'embrouiller un petit peu. Enfin, à s'embrouiller. Le Miz commence à être sacrément méchant. Et là, Rollins arrive. Et puis, il va en mettre une petite couche. Parce que Bo Dallas. Attends, je sais plus si Bo Dallas le sort avant que le Rollins soit là ou après. Mais Bo Dallas, à un moment, répond au Miz. Oui, bah, de toute façon, t'es qu'un pauvre type, un pauvre A-lister qui sait pas se battre. Donc Rollins, hein, il demande à Bo Dallas de répéter, hein, parce que tout le monde n'a pas entendu. Et puis là, et bah, c'est Balor qui arrive pour en remettre une couche. Et Dallas, il répète. Et puis là, il se prend carrément une baffe du Miz. Le Miz, il essaie de calmer le jeu en disant que bah, c'est Rollins et Balor qui essaient de foutre la merde. Faut qu'on soit unis. Hein, et puis, de toute façon, les gars, j'ai besoin d'unité parce que dans quelques jours... je serai recordman historique des champions intercontinentaux, meilleur que Randy Savage, meilleur que qui cite Shawn Michaels, meilleur que le Million Dollar Man. Et là, bah Curtis Axel, eh ben, il est pas content parce que que Mr. Perfect. Enfin, bref. Il est pas content, Curtis Axel, parce que c'est son père qu'il est en train de dénigrer un petit peu. Donc voilà, on sent que ça s'échauffe. Le Miz est à deux doigts de se faire tuer par le Mistourage. Sauf que à ce moment-là, bah, le Mistourage, ils attaquent Rollins et Balor. Et oui, c'était une blague. C'était une blague, tout ça. Tout était prévu. À ce moment-là, il y a Anderson et Gallows qui arrivent à l'aide et tout ce beau monde se bat à ringside. Le Miz se retrouve seul avec ses deux adversaires. Balor lui met un sling blade. Rollins tente le curb stomp, mais le Miz s'en va assez vite. Rollins gueule sur le Miz en disant « Tu te crois plus malin que l'architecte ?» Mais mais moi, j'ai plus d'un tour dans mon slip. Et à ce moment-là, Balor va chercher la ceinture au centre du ring, hein, parce que le Miz a oublié la ceinture. Rollins à ce moment-là, il fait « Non, 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 la ceinture, c'est à moi. » Il lui pique. Et bah alors... et à ce moment-là, donc du coup, le Miz est revenu derrière Rollins pour l'attaquer. Balor sauve le Miz en foutant un coup... sauve Rollins en foutant un coup au Miz. Une nouvelle démonstration que Rollins est complètement con. Et donc, ensuite, Rollins va balancer le Miz dehors. Et Balor lui met... Donc du coup, met à Rollins un sling blade. Pour bien montrer, donc du coup j'ai noté que Rollins c'est un con.
C'est ça la conclusion de toute cette histoire.
La conclusion de ce segment, c'est que Rollins passe vraiment pour un con. C'était assez incroyable.
C'est pas nouveau. oui, on dit souvent hein, les bonnes blagues les plus courtes sont les meilleures. Là c'était un petit peu long. C'était sympa ce petit faux retournement là du Miz contre le Mistourage, mais. C'est une question, il y a un problème de timing, hein. C'était un petit peu trop long tout ça. Ouais. L'acting des uns et des autres, c'est pas toujours au top. Baylor, il est quand même bien en dessous du Miz et compagnie.
Ouais.
Je suis pas sûr que ça fait avancer plus que ça la rivalité entre tout le monde.
Non, c'est tout le monde s'occupe, hein, ça c'est
l'animosité ou quoi que ce soit. Il y a eu un match aussi. Plus tard entre Gallows Anderson et le Mistourage, hein,
ouais,
qui a été gagné par Gallows et Anderson, je crois.
Voilà, je peux en parler vite fait, donc du coup, j'ai pris une seule ligne de notes, c'est le club
Oui.
qui gagne avec le Magic Killer sur Curtis Axel. Voilà,
Voilà.
bon, rien de vraiment à retenir de ce match. À part que bon, ça fait une victoire pour Anderson et Gallows, hein, c'est toujours bien pour eux, hein, parce qu'il y a des semaines, il y a même des mois où on se demande s'ils sont encore dans le roster, donc du coup, c'est pas plus mal. Donc voilà, après on a eu quoi? Après on a eu. Bah, c'est le moment de Asuka. De Asuka contre Jamie Frost. Jamie Frost qui est une jobbeuse de luxe, parce que finalement on a rarement vu une jobbeuse qui a carrément son synthé avec son nom direct et la petite interview. Que t'es pas dégueulasse, hein. Elle s'est débandée au micro pour dire que voilà, elle allait surprendre Asuka. Bon, ça a pas vraiment marché parce que elle a tenté de mettre des coups à Asuka qui a complètement nocellé, hein, pendant peut-être 5 secondes avant de lui mettre un kick dans la face. 1, 2, 3, victoire
Voilà.
d'Asuka. Et donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Asuka, elle est juste en train d'attendre de battre Charlotte et d'arriver à SmackDown.
Voilà. Mais c'est bien de la boucler comme ça, un petit squash comme ça, vite fait, bien
Oui,
fait.
voilà. C'est mieux de faire
C'est mieux que
ça.
d'avoir un truc à la con.
Ouais, voilà. C'est mieux de faire ça que de faire un match contre, je sais pas qui, moi, Mandy Rose ou autre, qui dure
Ouais.
10 minutes et dont tout le monde s'en fout. Donc, on a un petit passage de Corey Graves, hein, au commentaire, qui dit à Michael Cole, dis donc, t'as un petit peu effarouché Broken Matt la semaine dernière, hein, en insultant la Final Deletion. Et donc voilà, il va falloir faire gaffe à tes fesses, Michael. Et Matt Hardy en coulisses, donc du coup un petit segment, il nous dit que Bray a disparu et remplacé, je crois, par les senteurs du jardin de Seigneur Benjamin. Et Matt annonce qu'il sera à la Battle Royale pour déliter tout le monde. Et Michael Cole qui cherche encore la merde juste après, qui dit c'était insupportable. Comme segment.
On part sur une rivalité, Matt Hardy, Michael Cole.
Qui sait? Qui sait? Et bah écoute, je pense qu'on pourra difficilement faire pire que les segments qu'a fait Michael Cole, enfin les rivalités qu'a fait Michael Cole dans l'histoire de la WWE.
Ouais.
Donc voilà, on nous confirme juste après ça, avec un grand désespoir de tous les fans, que Bayley et Sacha seront bien dans la Battle Royale féminine.
Voilà.
Donc, des dépressions, hein, de ma part. Et juste après, on les voit en coulisses. Et Bayley dit à Sacha. Enfin, je sais plus, c'est Sacha qui va voir Bayley, qui lui dit ouais, tu me parles plus ou un truc comme ça. J'ai vu ton message, mais
Elles sont fâchées, non?
tu me réponds
C'est
pas.
ça.
Ouais.
Ouais.
Et donc, Bayley dit à Sacha qu'elle arrête pas de l'arnaquer, hein, dans les matchs, voilà, parce qu'elle sait qu'elle peut pas la battre, voilà, que Sacha peut pas battre Bayley.
Alors
Sacha
c'est
qui
pas
fait,
vrai.
Sacha qui Sacha qui dit oui, mais moi j'étais championne 4 fois et tout ça. Et là,
C'est vrai.
Bayley elle sort la phrase de trop. Bayley elle lui dit, ouais, mais ça a duré combien de temps tes règnes? Et là, bam!
La
Sacha
tête
Banks,
sur la gueule.
heel turn total ou pas, on ne sait
Non,
plus.
pas fort, pas fort.
De toute façon, avec la WWE, les heel turns, hein, ça peut changer d'un jour à l'autre. Bref, Sacha Banks démonte Bayley, hein, sur les caisses de rangement là, qui sont en coulisses. Hein, elle se balance à droite à gauche. Les arbitres arrivent pour les séparer. Voilà pour la petite séquence. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, l'enchaînement était un peu assez contradictoire. C'est-à-dire que, bon, les gars, finalement, on a décidé que Bayley Sacha, c'était pas assez intéressant pour faire une rivalité un contre un. Voilà tout de suite un segment pour installer une rivalité un contre un.
Voilà, exactement ça. The fuck? Peut-être qu'elles vont voler le Royal Rumble pour elles ou
Ah putain, si, eh non, mais
quelque
si
chose
avec
comme
ce
ça,
segment,
mais.
si avec ce segment, elles sont pas les deux dernières de la Battle Royale, je comprends rien.
Non, elles vont être éliminées en milieu de Rumble. par d'autres personnes qui n'auront rien à voir.
Mais en plus, non seulement ça voudra rien dire si elles sont pas les deux dernières, mais même si elles sont les deux dernières, c'est tellement injuste pour le reste du roster. Parce que c'est genre, tu balances la rivalité des deux, quasiment deux top stars féminines de Raw, tu la balances dans la Battle Royale et tout le reste des gens, on s'en fout finalement. Donc du coup, voilà, ça sape le boulot des autres. Mais par contre, j'ai adoré moi ce segment, ce petit segment, bah, ce truc que j'attendais depuis. Ça fait un mois que j'attends.
Même un an, on peut dire. dès qu'elle commence à se foutre sur la gueule, c'est là que ça devient intéressant de toute façon. Mais ils vont se borner à aller faire discuter, puis voilà, si on n'a pas de match derrière, il y aura forcément un match à un moment donné, mais ouais. Est-ce que ce sera Mania, est-ce que ce sera avant
Mais qui sait si la semaine prochaine, Kurt Angle va dire « Bon, c'est allé trop loin, voilà, un contre un à Mania, voilà. » Par contre, on n'aura pas, ça va pas être titanesque, hein, ça va être genre 10-15 minutes. Hein. Parce qu'il y a plein de place. Mais moi je veux ça, moi je les vois. La Battle Royale, c'est bon quoi.
Elle mériterait d'avoir leur match un contre un à WrestleMania quand même. C'est bizarre ce qu'elles font avec elle.
J'ai l'impression qu'ils se réveillent, ou alors c'est pas les mêmes mecs qui font les segments. Je sais pas, il y a eu un relais, il y a eu les mecs qui sont bons qui ont pris le relais cette semaine. Et qu'on fait, on a oublié ça, les gars, la rivalité Bayley-Sacha. Ça serait bien de la. Non ouais.
Semaine prochaine, ce sera Bayley au commentaire d'un match de Sacha.
On va
le dire, depuis que je suis tout petite, je voulais faire du catch. Et puis. Et voilà.
Qui sait. On va passer à Braun Strowman, qui arrive dans le ring. Pour affronter une nouvelle fois Sheamus. Alors on ne sait pas au début Sheamus ou Cesaro, il y a Sheamus et Cesaro qui arrivent juste après. Strowman donc dans le ring, il prend le micro et puis il promet de dire qu'il sera son partenaire à Mania hein, pour le match tag team. Seulement si Sheamus arrive à le battre. Donc Sheamus il ramène sa fraise. Et puis s'ensuit un match plutôt sympathique hein. Enfin, en même temps, c'est Sheamus et Braun, hein, ça peut être que bon. Forcément, Sheamus le bat pas, hein, il se fait quand même plier en deux hein, la majorité du temps. Et puis voilà, ça se termine. Je peux avoir une Running Power Slam aussi.
Ça doit être ça.
Ouais, comme d'habitude. Donc voilà. Là, autant on remplit un peu le temps, mais c'est un peu du remplissage aussi, mais au moins dans le ring, c'était sympathique comparé à ce qu'on a vu dans la soirée pour l'instant.
Simple et efficace. Braun, il est toujours bon au micro. Sheamus et Cesaro, ils commencent à se démerder pas mal. Ils ont leur petit jeu de scène là qui commence à fonctionner. L'histoire, elle est pas mal, je trouve. Et donc, moi, je suis plutôt satisfait de tout ça.
Et j'ai hâte de. Je trouve que. Ils ont intérêt à avoir une bonne réponse avec le partenaire de Braun parce qu'ils nous le teasent tellement là que. Si c'est. Je sais pas moi, si c'est une blague, si c'est un truc blague, ça va pas me plaire. Un truc blague du genre, je sais pas moi. Heath Slater, tu vois. Un truc du genre. Bref. Kurt Angle, il arrive au centre du ring. Il nous reparle du tag team match, etc. Et puis il invite Ronda Rousey. Oh, je sens ringside qui était chaud de la braise pour ce segment. Donc, Ronda, il invite Ronda à venir. Il fait tout plein de compliments. Ronda est trash talk un petit peu Stéphanie. Et du coup, voilà, c'est une. C'est une athlète de limousine, c'est une athlète, enfin bref, c'est une bourgeoise, hein, elle connaît pas le street fight, le vrai. Absolution arrive pour aucune raison, hein. tristesse et ça arrive comme ça, je sais pas ce qu'elle fout là. Paige prend le micro et elle propose que Absolution soit le backup de Ronda Rousey parce qu'elle dit oui non mais Kurt Angle, le mec derrière toi, déjà il t'a foutu dans la merde en te foutant dans ce match, moi je sais ce qu'il faut faire dans la compagnie, hein. Faut caresser les gens dans le sens du poil, et puis voilà, donc viens avec Absolution. Au début, elle le propose d'être son backup, et puis après, elle dit carrément « rejoins Absolution ». Ronda lui dit « non ». Et Paige, bien sûr, envoie ses sbires qui se font zigouiller par Ronda. Mandy se prend... Alors, il y a un débat. Moi, je trouve que ça ressemble juste à une souplex super dégueu. Mais il y en a qui disent « ouais, mais c'est Ronda, elle fait un truc de judo, donc c'est normal, ça ressemble pas à une souplex ». C'est quand même un peu dégueu ce qu'elle a fait, surtout qu'elle l'a fait au mauvais timing, puisque en fait elle l'a fait sur Mandy Rose qui devait ratterrir sur Sonya Deville qui n'était pas au bon endroit. Donc on voit Mandy Rose atterrir sur les jambes de Sonya et Sonya se décaler pour que Mandy soit je sais plus sur son ventre juste après. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et puis voilà, Ronda, les yeux sévères, entre rage et tristesse, s'en va avec Kurt Angle pour ce segment qui voulait nous montrer que Ronda Rousey est badass. Qu'est-ce que t'en penses, Ring?
C'était nul. Elle est...
On est bien là, on est à combien, 1,5 là du rond là.
Ouais. Ça patinait hein, cette semaine. Non, elle tient pas le micro, la pauvre. Tout ce qu'elle sait faire, c'est son visage méchant là pour l'instant. Elle a pas une bonne delivery. Ça a l'air un petit peu dégueulasse quand même quand elle commence à catcher. L'absolution.
J'ai pas dit qu'elle avait fait une clé de bras aussi.
Ouais, voilà.
Sur Mandy Rose.
C'est pas beau pour l'instant hein, ce qu'elle nous sort. J'ai pas trouvé plus over que ça auprès du public. L'absolution était là pour faire illusion un petit peu. Non, c'est pas très bon. Faut pas trop la faire parler, ou je sais pas, faut l'utiliser autrement. Là, ça fonctionne pas, ça donne pas de la bonne télévision, quoi, j'ai envie de dire. Moi que toi t'as trouvé ça
non je vais pas
non, c'est
pas
catastrophique
je vais pas pour une fois on va pas être je vais pas essayer de défendre un truc que t'as détesté là c'était pas génial je vois pas trop ce qu'il faudrait en fait c'est juste que il y ait une personne qui sert à rien genre Dana Brooke comme ils nous l'ont, ils l'ont fait, mais ils l'ont pas filmé, ils l'ont pas diffusé à la télé la semaine dernière, qu'il y ait une personne qui sert véritablement à rien, parce que Absolution, elles sont quand même dans des rivalités ou autres, mais qu'il y ait juste Dana Brooke qui vienne la faire chier, elle lui fait une clé de bras, point barre. Là, c'était trop alambiqué, pourquoi Absolution demande... Ronda, elle vient d'arriver il y a 2 semaines, maintenant Absolution lui demande direct viens dans notre faction et tout ça. Il n'y a pas de raison. Ronda, c'est pas comme si elle venait de faire des squash match ou quoi que ce soit. Elle a rien fait pour l'instant, donc ça a aucun sens d'avoir Paige comme ça qui dit oh là là, il faut absolument que tu nous rejoignes hein, parce que t'es trop badass et machin. C'était nul. Et puis surtout, moi j'ai du mal encore avec le fait que Paige elle est toujours là, elle a toujours le micro et que. Je le répète à chaque fois, j'aime beaucoup Paige. Si Paige elle peut plus catcher, laisser les autres parler un petit peu ou autre, même si elles sont pas très bonnes au micro, mais au moins que parce que là voilà, c'est elle cherche les emmerdes, mais c'est pas elle qui elle peut plus catcher, donc du coup je trouve ça un peu dommage pour le voilà. Même cette idée là, tu vois, elle était pas. Ça aurait pu être sympa de se dire Paige Ronda Rousey peut-être plus tard, mais là on sait très bien que ça n'arrivera pas. Donc juste après, donc voilà, on avait le Anderson Gallo Miss Tourage, mais Elias est arrivé, il nous a chanté une bonne vieille chanson où il s'est moqué de Cleveland hein. Il a dit la semaine dernière j'ai sold out le Staples Center. Je ne sais plus maintenant. Enfin, j'ai sold out la salle où on était la semaine dernière, mais là, ce soir, bah, ça me déprime un peu d'être à Cleveland, tout ça. Enfin bref, il a un petit match contre Rhino, il le bat avec le drift away. C'est très rapide.
Mais donc... joliment exécuté.
Oui, oui, oui.
Hein, tiens toujours aussi bien le micro. L'ami Laias, Rhino, il fait le taf. Hein.
Voilà. On a aussi Coachman qui raconte de la grosse merde à un moment où il dit que Elias il serait génial comme partenaire de Ronda Rousey. Mais je crois qu'en fait il a confondu je sais pas pourquoi il devait peut-être dire Braun Strowman et peut-être qu'il a dit Ronda Rousey. Ouais. Enfin bref, Coachman c'est une
c'est pas facile.
Catastrophe. Hein. Oh là, mais c'est la seule catastrophe comparable que j'ai vue ces derniers temps, c'était JR à comment Strong Style Evolved, dont on va parler parce que je l'ai pas du tout annoncé au début, mais c'est pas grave, c'est sur la vignette, donc vous le savez. On va parler de Strong Style Evolved rapidement à la fin de ce podcast.
Alors, donc j'ai découvert que Corey Graves avait les mêmes goûts musicaux que ma femme.
Ah oui, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, parmi mes groupes préférés aussi. Corey Graves qui nous a dit en parlant de Elias qui était complètement pourri, il s'est dit ouais moi ici à Cleveland j'ai vu Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, donc voilà, des très bons goûts hein, Corey, pas capillaires mais musicaux. Et donc on arrive au main event. Déjà le main event, c'est John Cena contre Kane.
Oh la menace. La semaine a été longue, hein. Depuis que ça a été annoncé le match, moi je trépignais de la patience.
Pour un match sans disqualification. Au début, donc du coup, ça se déroule dans le ring pendant peut-être 2 minutes, mais Kane va vite se battre contre Cena à l'extérieur. Il balance Cena dans les marches. Après la pub, Cena a une barrière dans les mains. Hein. Il est de l'autre côté. La coupure entre avant et après la pub, au début, c'est genre, on dit, oh, c'est le début du match, il commence à être dehors. Et là, on passe au côté hardcore juste après la pub. Après la pub, c'est genre, il y a Cena avec une barrière. Bon. Donc Cena qui tente d'attaquer Kane avec la barrière, mais qui se fait contrer. Kane qui met la barrière sur le bord de la table des commentateurs, entre la barrière et les commentateurs, et balance Cena sur la barrière, je sais plus, en chokeslam, un truc du genre, non, souplexé, hein, non, je crois qu'il le souplexe carrément,
ouais,
sur la,
c'était pas mal, hein,
sur
pas
la
mal,
barrière. Bah, c'est courageux de Cena de se faire des petits spots comme ça. Cena joue vaguement le heel quand il revient dans le ring avec la protection dans le coin du ring qui retire. Et il balance Kane dedans. Il lui fait carrément un choke slam, hein, Kane, en faisant le signe du taker comme ça. Ça ne suffit pas, hein, seulement deux. Juste après, il sort une table, mais ça se retourne une nouvelle fois contre lui. Kane l'encastre dedans. Kane ramène une table lui aussi, et ça se retourne contre lui, puisque Cena lui fait un attitude adjustment dans la table. Pour la victoire, 1, 2, 3. Cena, à ce moment-là, prend le micro. Il demande une nouvelle fois, où est le taker? Le taker, réponds-moi, esprit du taker, où es-tu? Il dit, il n'y a pas d'éclair dans le ciel, il n'y a pas d'intervention, mais c'est un match sans disqualification. Normalement, à la WWE, pas de disqualification, il y a intervention. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les bookers? Et donc bon, le même speech vaguement que la semaine dernière, finalement. Et puis tu vas décevoir Taker si tu n'es pas mania. Tous les gens qui ont été fans toute leur vie de ton charisme et de ta personnalité, ils seront tous super super déçus.
Ouais, attention.
Ça va, voilà. Et bon, sinon, je prendrai mon ticket pour Mania dans le public. Voilà,
Là, tu pourras lui revendre le tien.
Ouais, j'en ai marre d'attendre que quelqu'un achète mes tickets de Mania et de me dire que je vais perdre beaucoup d'argent.
Jusqu'au bout, hein, ils vont donner l'annonce du match que la semaine prochaine.
Oui, c'est moi, je suis presque d'accord avec Cena, c'est-à-dire que Taker, s'il te plaît, confirme-toi, parce que moi j'ai des places à revendre.
C'est la pointe des politesses, bordel. Ce manque de savoir-vivre.
Bon, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, au moins, disons que le match était amusant.
Ouais, le match était amusant, mais alors,
Ouais.
lent, d'une lenteur.
Ouais.
Mais bon, plutôt pas mal. À un moment donné, Sina, il sort une table. J'ai cru qu'il allait sortir le niveau à bulle là, pour s'assurer qu'elle était bien posée. Du coup, il a pris tout son temps. Mais bon, ils ont fait des gros spots. C'était plutôt bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Les deux, ils savent faire le job de toute façon, même si Kane est plutôt de première jeunesse.
Ouais.
Puis pour le reste, bah, on fait traîner hein, l'annonce du Taker. Je ne sais pas trop pourquoi non plus, mais. Voilà, jusqu'au bout, ils vont nous faire mariner. Du coup, John Cena est très très bon, mais c'est quand même difficile de sortir comme ça toutes les semaines des promos tout seul pour monter la rivalité. Malgré tout son talent, il y a quand même des limites, hein. C'était encore un petit peu long le speech pour pas grand-chose, quoi.
Et ouais, de toute façon, tout ça n'avance pas vraiment. On sait très bien qu'on va devoir attendre la semaine prochaine. Ou qui sait, WrestleMania, peut-être qu'ils vont jouer la carte du
Du
Cena, enfin
match
de,
surprise.
ouais, voilà, du Taker qui arrive et Cena qui sort du public, genre, je suis prêt.
Ils vont se battre dans le public.
Oh my
Ils auront les
God,
deux
John
places à la
Cena
côté
avait
de
déjà
l'autre.
son costume, enfin avait déjà son ring gear. Il l'avait pris dans un petit sac avec lui, au cas où. Incroyable! It's amazing! Donc voilà, vous l'avez deviné, c'était pas vraiment, ou voire pas du tout un grand Raw cette
Non,
semaine.
c'est pas Jojo.
On sent qu'il y a un petit peu un épisode de trop avant WrestleMania, et peut-être qu'ils vont tout nous mettre la semaine prochaine. On espère.
L'important, c'est qu'on ait un bon Mania, quoi. Mais
Oui,
la
voilà.
Road n'aura pas été des plus. Même si on a une très belle affiche de Mania, que de très bons matchs, la Road n'aura pas été des plus passionnantes, je trouve.
Ouais, ça manque de. J'avais lu dans la journée que la carte de WrestleMania. Enfin, je sais plus, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait la carte de WrestleMania ressemblait à genre un booking des fans. Enfin, un booking de fans de catch, mais sans. Enfin, avec très peu d'écriture de rivalité en fait dedans. C'est juste genre j'ai envie de voir tel contre tel. Donc, du coup, la carte est très belle. Mais alors les rivalités derrière, moins... Voilà. Moins
Ouais, il n'y a
ouf.
pas de gros enjeux, il n'y a personne qui joue sa carrière, il n'y a rien de. Il n'y a pas eu de trahison sanglante, il n'y a pas eu de. Voilà,
Y a pas de
tout est très léger.
blood feud. Donc c'est tout pour ce Monday Night Raw. Le mot de la fin, ton top, ton flop, ta note, ringside.
Je vais donner mon flop à Ronda Rousey, Rosie, voilà, parce que
Rowdy.
c'est pas bon. Si elle continue comme ça, on va se faire chier avec elle. Va falloir élever le débat un petit peu. Faut se reprendre. Le top, je vais le donner à Ilias, qui était très cool. Et la note, je vais donner à 2, un petit 2.
Ouais.
C'était pas passionnant du tout.
Ah, je m'entends.
Je m'entends.
Je m'entends en écho,
M'entends
par
en
contre.
écho.
Donc j'allais dire mon top. Qu'est-ce que c'est mon top de la soirée? C'est Bayley Sacha, ouais. Bayley Sacha, le segment qui, en soi, contenu sans le fait qu'ils nous disent juste avant Battle Royale bidule, mais juste ce passage-là, voilà, c'est le truc que j'attendais depuis un bail, donc voilà, j'étais content. Même si. Il faudrait que voilà qu'il se bouge le cul et qu'il fasse l'étape logique qui est juste après, c'est-à-dire un contre un et pas une battle royale.
C'est ça.
Et le flop de la soirée. Le flop de la soirée, c'est Seth Rollins que j'adore.
Pourquoi pas?
J'arrête pas de dire, je le dis à longueur d'année que Seth Rollins est un de mes préférés, mais là, c'est pas possible d'être booké comme un con pareil. Stupide, stupide. Vraiment, alors je vais pas dire que c'est facile, mais moi je me dis à la place où il est, si un mec est en train de lui raconter qu'il va se passer ça dans la soirée, mais tu discutes tout de suite. Dis-lui au moins, genre limite les dégâts quoi. Juste dis-lui non mais bon, je veux bien une partie de ce segment-là, mais pas tout, là, t'es en train de m'enterrer, là. Il faut qu'ils le disent. Ils sont en train, bah, sont en train d'enterrer, ils font le faire passer pour un crétin fini, quoi. Même si Balor gagne à Mania, il n'y a pas une raison d'enterrer Rollins comme ça. Quoi. Donc voilà. C'est vraiment le truc qui m'a un peu énervé. Dans la soirée. Ah,
c'est stressant, hein, ce booking de Rollins.
Ouais, c'est une semaine, c'est genre le nouveau héros de Raw. Maintenant, non, en fait, il est con. Arrêtez.
C'est dommage. Dommage, ils ont un très bon heel avec lui et ça peut être un très très bon babyface, j'en doute pas. C'est dommage de faire toujours ce booking Gigio avec lui où il est toujours à côté de la plaque, hein, le pauvre. Ouais. Kyrias nous partage son flop, Lesnar qui croit encore avoir des feux d'artifice.
Ok, il a fait comme ça. Rentre. Ah, j'ai pas remarqué. Il a fait comme ça et
voilà.
Et il y avait pas de feux d'artifice.
Le pauvre.
C'est pour les étirements, ça. D'accord. Autre chose?
Non.
D'accord. Bon, et ben on va passer vite fait à la carte de non, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets le truc d'NXT. Strong Style Evolved, voilà. Alors, c'est que là, c'est n'importe quoi. Hein, notre présentation, il y a marqué Raw d'un côté, Strong Style Evolved. Enfin, c'est pas grave. On va donc, du coup, vite fait parler de Strong Style Evolved avec une petite phrase par match et puis peut-être un peu plus long pour le main event. Qu'est-ce que t'as pensé de Roppongi 3K and Rocky Romero contre Christopher Daniels, Frankie Kazarian, je me souvenais même pas de son nom, et Scorpio Sky, ouais, c'était le match d'intro.
Ouais, match d'ouverture, il y a eu quelques cabrioles, c'est des vieux de la vieille, hein, Daniels et Kazarian, donc ils savent comment chauffer le public, pareil pour Rocky Romero. Le Roppongi 3K, ils sont pas mal talentueux, Scorpio Sky, pas rien à foutre. Mais non, bon, c'était un bon opener. Ouais. Opener gentillet.
Ouais, moi j'ai pas été super hypé. J'ai déjà vu, pour le peu de matchs que j'ai vu, parce que j'ai commencé à regarder depuis quoi, un mois et demi, plus le Wrestle Kingdom. Le dernier Wrestle Kingdom. Mais Roppongi 3K, je les ai déjà vus dans des meilleurs matchs que ça, hein, quand même. Ouais.
Ça m'a inquiété pour eux parce que quand ils sont venus lancer le challenge, le public n'a pas réagi. Ouais. Au show de la New Japan Cup, là, à la finale, il y avait un petit silence assez déstabilisant. Alors, je ne sais pas s'ils ont perdu un peu leur pop auprès du public japonais. Mais bon, là, on était aux États-Unis, donc c'était pas pareil. Les gens étaient contents. Ça
alors, Gedo, Hiroki Goto contre Juice Robinson et David Finlay. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Pauvre Goto qui vient de se faire ouvrir les lèvres sur un méchant coup de coude.
Ah oui, c'est
de Juice Robinson en début de match. Bah, ils étaient un peu en vacances, les deux japonais. Ouais. Juice est plutôt populaire. Finlay, ben, il fait ce qu'il peut. C'est pas celui qui me passionne le plus. C'est pas un très très grand match, mais c'était aussi bien pour démarrer le show.
Voilà. Mais j'ai pas dit d'ailleurs les victoires entre les. donc du coup que je me souvienne, Roppongi ils ont gagné.
Je crois bien.
Ensuite, Gedo Goto contre Juice et David Finlay, je crois que c'est Gedo et Goto.
C'est Gedo qui se prend le pin.
Ah oui, non, autant pour moi. Voilà. Ensuite, on a eu Chuck Taylor et Toru Yano contre Davey Boy Smith Jr. et Lancel Archer.
C'était rigolo, ça. C'est dans le comedy wrestling.
Heureusement qu'il y avait Yano dans ce match, hein, parce que.
Yano, il est extrêmement populaire aux États-Unis. Hein.
Ouais. Donc voilà, c'était un peu le comedy match de la soirée. Donc du coup, c'est Davey Boy Smith Jr. et Lance Archer qui ont gagné. On va passer à du un peu plus costaud. Cody Rhodes, Marty Scurll contre Guerrillas of Destiny. Le match Bullet Club versus Bullet Club. Enfin, Bullet Club moderne versus Bullet Club OG.
Oui, les originaux.
Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Ringside?
Ça c'était plus sympa tout de suite. Hein. Il y avait pas mal de construction. Cody Rhodes, il est vraiment au top hein, quand il commence à diriger les matchs comme ça, à faire son acting et tout ça. Guerrillas of Destiny, ils étaient bien dans le ton. Hein, on ne savait pas s'ils allaient se foutre sur la gueule. Ça s'est tourné autour, puis finalement il y a eu un beau petit match.
Il y a eu une petite promo avant, j'ai pas dit. Il y a eu une petite promo avec Cody qui dit tout va bien. Il balance que Guerrillas of Destiny c'est les OG Bullet Club et pour faire monter le public. Pour que le public applaudisse et après il dit moi je considère Tama Tonga comme mon meilleur ami ou un truc comme ça c'est pas Tama Tonga, c'est l'autre je crois qui dit au micro que si on est dans une team c'est pas Team Cody donc voilà. Parce qu'au début, Cody, il disait non, mais c'est ridicule ce match. Il voulait pas que le match se place.
Bref. Ah, puis il y avait ce concours de popularité là entre Cody et.
Oui, voilà, Marty Scurll qui a encore la face pop. Enfin, voilà. il a encore une pop de fou quand même. Et Cody Rhodes qui se fait largement boué. Mais voilà, il y avait un bon jeu avec le public, un match vraiment sympa et qui du coup s'est terminé avec Cody Rhodes, Marty Scurll qui gagne. Il y a eu intervention aussi de Mandy Rose. Mandy Rhodes.
Brandy Rhodes.
Brandy Rhodes. C'est pas la même. Brandy Rhodes pour attirer un peu de la hit. Bref, c'est juste après, on a eu Tanahashi, Kushida, Dragon Lee, Taguchi contre L.I.J. Taguchi, Sanada. Sanada, Naito, Bushi et Takahashi. Donc voilà, le match de rivalité, enfin le match de rivalité, le match de faction classique de la New Japan. Qu'est-ce qu'on a installé avec ce match déjà comme rivalité? On a eu un bel échange quand même entre Tanahashi et c'était entre Tanahashi et qui? Entre Takahashi et Dragon Lee, voilà.
Ouais, quand ils ont commencé à s'envoyer des lariats.
Échange de claques, même un peu plus tard, ils ont eu des beaux échanges.
Bah eux, ils ont eu une longue rivalité au Mexique, ils ont eu une rivalité aussi au Japon. Ils se connaissent par cœur les deux là. Ils ont fait tout leur début de carrière ensemble l'un contre l'autre. Donc forcément quand ils arrivent dans le ring ils se connaissent par cœur et puis ça fonctionne toujours du feu de dieu, c'est deux incroyables workers ceux-là. Il y avait du talent dans le ring là à ce moment donné, ouais. Hormis peut-être Bushi qui est un petit peu un level en dessous, c'est que des cadors là qu'on avait dans le ring.
Grosse popularité de Naito hein, ouais, aux États-Unis.
Après il était un peu en vacances hein, Naito. Il y a pas grand monde qui a sorti le grand jeu quoi, mais bon ça fait le taf. Ça match de house show un peu.
Mais ça m'a étonné que du coup Naito soit plus populaire finalement auprès du public que Tanahashi. Hein, j'ai trouvé au niveau de la pop. Mais bon. Ensuite, on a eu donc du coup remplacement de Rey Mysterio qui était entre guillemets pas là. Qui était du coup blessé. Hein, il a triceps.
Retourné de triceps.
Donc voilà, finalement on a eu Jushin Thunder Liger avait bien un match, mais cette fois-ci contre Will Ospreay, hein, le grand voltigeur. Un match où Will a pris le dessus malgré une bonne offense de Jushin. Surtout en fait ça nous a raconté ce match juste après que Will voulait on a vu Rey Mysterio On a vu Rey Mysterio donc du coup venir, bah, je crois que c'était juste avant le match pour s'excuser, et juste après le match donc du coup Will Ospreay a appelé au défi Rey Mysterio une fois qu'il sera en condition pour un match, et à ce moment là on a eu c'était qui l'ancien partenaire tag team de Will Ospreay,
c'est Marty Scurll.
C'était Marty Scurll qui l'a attaqué. Ah oui, oui,
ouais,
oui.
Un coup de parapluie dans le dos. Bam.
Donc voilà, on nous a installé un petit paquet de matchs quand même pour Will Ospreay là.
Ouais.
Il a de quoi
la
faire.
La mana qui est chargée. Je me pose un peu des questions sur l'avenir de Rey Mysterio à la New Japan, parce qu'il est il est soigné par les médecins de la WWE en fait, donc il y a forte chance que quand il soit rétabli, peut-être il signe à la WWE.
Il a promis
maintenant. Ouais.
Il a dit dès que je serai en condition, je reviendrai à la New Japan. Donc voilà, il y a toujours une espèce de suspense sur ce que va faire Mysterio. Je savais pas que c'était les médecins de la WWE qui s'en occupaient, mais donc voilà, un match un petit peu plus tendu, c'est Kazuchika Okada, le champion heavyweight, Tomohiro Ishii, contre Zack Sabre Jr., le gagnant de la New Japan Cup, et Minoru Suzuki, le champion intercontinental, si je ne me gourre pas. Voilà.
C'est ça.
Donc voilà, le torsionnaire, hein, ces deux torsionnaires, hein, Zack Sabre Jr. et Suzuki, c'est les mecs les plus vicieux de tout le royaume.
Ah ouais, deux saloperies, les deux-là.
Donc voilà.
Ils se sont trouvés. Encore une fois, c'était pas mal. Il a pas montré grand chose au Okada, hein, c'est ça qui est dommage. C'était le service minimum, hein, j'ai un petit peu envie de dire. Double abandon à la fin, là. Chacun est piégé dans une prise de soumission.
Il y a eu aussi une combinaison à un moment de Zack Sabre Jr. et Suzuki sur le... Je crois que c'était sur Ishii, ou c'était sur Okada.
Ouais,
je crois que c'était sur Ishii. Mais il y en a un qui s'occupe de deux membres qui s'occupe des autres. Vraiment, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses, ces gars. Mais donc voilà, Zack Sabre Jr., hein, qui a une rencontre contre Okada. Donc du coup, vu qu'il est gagnant de la New Japan Cup.
Et on n'a pas dit que Ospreay contre Lager, c'était super, hein, quand même, le match. Hein.
Oui.
Shin Lager, il est assez exceptionnel à son âge, hein, de taper des superplexes, là, etc. Et puis Ospreay, ils donnent toujours à fond.
J'avoue que j'étais un peu au moment où j'ai regardé ce match, j'étais un petit peu fatigué parce que.
Faut dire que le moment où t'as fait ta pause. Ouais. Alors tu vois, moi c'est plus sur celui qu'on vient de passer là avec Okada où j'étais. Là.
Tout ce show a duré genre 3h30. Enfin sans compter
long,
les
hein.
4 heures en comptant les pauses qu'ils font entre les matchs. Mais donc voilà. Et alors le match, donc du coup j'en parlais sur Twitter, le match que peu de gens ont aimé. Mais moi, que j'ai vraiment apprécié parce que j'ai trouvé que c'était assez dramatique et assez effrayant en même temps, c'est Jay White contre Hangman Page avec des spots meurtriers. Mais regardez ce match, ils se foutent des trucs, mais des powerbombs de partout. Hein. Powerbombs sur les barrières, sur le sol. C'est des gros risques quand même de c'était le voilà je sais pas commotion cérébrale match donc
ça on sent qu'ils sont jeunes les deux là qu'ils ont envie de se donner
voilà ils voulaient
se
prouver quelque chose surtout avec
shooting star press sur le à l'extérieur du ring
voilà qui s'est terminé en ça j'ai trouvé ça assez original, je sais pas si c'était vraiment calculé, mais je crois que c'était le shooting star press qui se termine en coup d'épaule. Non vraiment, enfin après oui c'est un match qui est lent. Et peut-être que c'est pas ce qu'il fallait pour le public.
Non, mais le problème, c'est que ce soit Jay White ou Hangman Page, les deux sont pas over.
Ouais.
Donc, on était un peu dans la même configuration que les main events de 205 Live là, ces dernières semaines. C'est-à-dire que tu as deux excellents workers qui font un super match, super booké avec des spots de fou. Mais le public ne s'intéresse ni à l'un ni à l'autre. Donc, au fur et à mesure, quand même, ça a pris. Hein, le public était à la fin du match, le public était quand même dedans. Mais on part de loin à la base.
Ouais.
Et il faut vraiment que les mecs sortent le grand jeu. Et c'est assez impeccable. Je pense qu'ils ont un grand avenir tous les deux. Mais c'était sûr que l'un comme l'autre, à l'arrivée, c'était pas les deux mecs que le public attendait et avait vraiment envie de voir. Hein. C'est...
Le truc qui était perturbant aussi dans ce match, c'est que Hangman Page a pas mal catché comme un heel, quoi. Et c'est Jay White qui est censé être le grand heel en ce moment.
Ouais, t'as un problème de positionnement là-dessus. Ouais.
Hangman Page a fait des trucs vraiment des... Enfin, je j'ai pas le détail pour vous, mais regardez ce
ouais,
match.
Ouais, il enchaîne quand même un saut arrière, là, comment on appelle ça.
Moonsault ?
Moonsault, voilà, arrière, à l'extérieur du ring. Après, il fait le shooting star press. Après, il remonte, il fait sa corde à linge en flip, là, de ouais. Fou. Voilà, il faut quand même tout ça pour que le public se dise « Ah ouais, quand même, on a un super match, là. »
Ouais, non, moi, ça me désolait un peu parce que c'était grand silence hein, pendant ce match. Bon, bref. Le match pendant lequel c'était pas du tout le grand silence, c'était Kenny Omega. Donc du coup, victoire, j'ai pas dit victoire de Jay White, hein, il est toujours champion. J'avais pas non plus sacrifié la ceinture à un show aux États-Unis quand même. Et puis bon, Jay White, il est pas champion depuis très longtemps, mais bref, Kenny Omega. Donc du coup, que Jay White a battu pour la ceinture, l'US Championship, Kenny Omega et Kota Ibushi, les Golden Lovers contre les Young Bucks. Là, pour le coup, je parlais de Blood Feud dans la review de Raw. C'est une vraie Blood Feud. Hein. Là, on ne sait plus à qui s'allier. Kenny Omega, il veut pas se battre au début. Bref, ça serait trop long de vous expliquer ce match, mais il y a énormément d'histoires qui est racontée dans ce match. C'est très très bien joué. Il y a des pirouettes, mais c'est assez maîtrisé. Et je trouve que c'est le premier match que j'ai vu où les Young Bucks m'ont semblé être plus concentrés sur le storytelling que. Enfin, on voit qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent pour ce match-là, quoi, les Young Bucks.
Ah ouais, non, mais quand ils se prennent au sérieux, les Young Bucks, il y a pas. Ils ont plus de talent.
Moi, tout ce que j'avais vu des Young Bucks, c'était. Voilà, c'est des matchs un peu. Un peu démonstration, un peu cabriole, tout ça. Et là, c'était vraiment un match avec de la grosse dramaturgie, le passage avec Kenny Omega qui hésite à faire le One Wing Angel sur Matt ou Nick Jackson, je ne sais plus. Mais donc voilà.
C'était Matt, je crois.
C'était Matt, et Matt qui lui dit « Vas-y, vas-y !» Parce qu'il est sur son dos, mais il lui dit « Vas-y, fais-le, je m'en fous !» donc voilà, c'est en fait dans le match il y a Nick qui est contre l'idée d'être contre Omega et qui se dit il y a encore un espoir de se réconcilier et Matt qui est complètement en mode heel vénère tout ça et qui porte d'ailleurs la ceinture si vous avez regardé le Being the Elite qui porte l'espèce de ceinture que lui a offert Cody Rhodes. Il a offert une ceinture à tout le monde avec leur nom dessus. Enfin bref. Et donc tout ça se finit avec un Kenny Omega qui est au bord des larmes mais qui accepte de finir Matt, je crois, avec. Enfin, il est avec Ibushi et ils font le. V-Trigger des Golden Lovers, je sais plus comment il s'appelle, le Golden Trigger.
Voilà.
Ils font le Golden Trigger avec peu de conviction, mais le tombé est bon. Victoire des Golden Lovers.
Donc la plus grande équipe du monde.
C'est donc la plus grande équipe du monde, c'était le challenge. pour un match qui a duré très longtemps, mais qui n'a pas. Qui n'a vraiment pas baissé de rythme. Sur 40 minutes, je crois. Hein. 40-45
minutes. Ouais, c'était assez exceptionnel, hein, les talents énormes là, entre les Young Bucks, Omega, Ibushi, ils sont tous au top à l'heure actuelle. Il y avait plein d'intrigues qui se sont croisées dans ce match là. Ça reprend les choses de Being the Elite, les rivalités de la New Japan, ce qui se passe à la Ring of Honor aussi, tout ça mélangé, et puis avec que des spots de fou, des enchaînements de tarés. Nick Jackson, il est en feu en ce moment. Il n'y a pas eu un raté de tout le match. C'était ce qu'on attendait de voir.
Il y a eu quand même le spot où ils soulèvent Matt et ils sont Ibushi et Omega sont sur la deuxième corde et ils soulèvent Matt deuxième corde, ils soulèvent Matt sur le coin du ring et à un moment le corps de Matt va vers l'extérieur du ring et en fait tu le vois si tu trouves un gif du truc, en fait il y a Ibushi qui juste de justesse plante, non donc du coup ils étaient sur la troisième corde, plante son pied plus loin sur le poteau pour rétablir le truc, mais on était à deux doigts de l'incident hein. Ce spot il est super flippant, son corps fait comme ça quoi.
Ah bah ils font des spots super dangereux. Hein. On n'est pas dans le safe hein, là.
Il y a des trucs qui font très peur. Mais il y avait voilà.
C'est pour ça quand on dit est-ce que Daniel Bryan devrait aller catcher à la New Japan. Attention quand même.
Ouais non mais. Après bon ça dépend voilà ça dépend de avec qui catch, mais c'est sûr que si tu restes, si tu vas clairement dans une fédération, tu vas rencontrer des mecs qui vont t'obliger à catcher comme enfin dans à la New Japan, tu vas rencontrer des mecs qui vont quand même t'obliger à faire des spots assez flippants. Donc voilà. Et puis en global, t'as trouvé comment le show?
Écoute, c'est sauvé par le main event. Il y avait les matchs de début de carte n'étaient pas exceptionnels. On était vraiment, pour moi, dans un espèce d'house show glorifié, comme on dit, avec des Japonais qui ont quand même pas branlé grand chose. Hein. Mais par contre, sauf Ibushi et Jushin Liger, qui était assez exceptionnel. Les restes, ils étaient là un petit peu en touriste, faudra peut-être respecter un petit peu plus le public américain s'ils veulent vraiment s'imposer, même si bon, c'est un succès hein, le show, il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont tout vendu. Techniquement, c'était pas encore parfait hein, au niveau de la réalisation. Ce que j'ai trouvé
étrange,
c'est
qu'il y a... Alors, je sais pas comment ils pourraient le résoudre, mais ce spot où du coup les Golden Lovers, Kenny Omega et Ibushi font chacun, je crois, un moonsault sur un des deux Jackson. Et apparemment, justement, le spot. Alors, je sais pas s'ils en ont fait exprès, mais Ibushi s'est vraiment raté sur son moonsault. Et Omega, en interview juste après, a parlé du fait qu'il a peur qu'il ait une blessure, mais il sait pas. Donc, bon, kayfabe, mais en tout cas, il n'était pas en interview, Ibushi.
Ok.
Donc.
À voir.
Ouais, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. J'ai trouvé la fin du show était vraiment, moi les quatre derniers matchs avec le Osprey Thunder Liger, voilà, c'est quatre vraiment bons matchs. Je dirais que si vous voulez regarder le show, regardez les quatre derniers matchs et puis celui de Cody Rhodes, parce que celui de Cody Rhodes, Cody Rhodes Marty Scurll contre Guerrillas of Destiny, c'était quand même sympa et puis en plus c'est court. Et Cody Rhodes a fait une interview, mais
il est
génial.
Il est fort,
après hein, il y a une interview de 10 minutes où en fait il commence, il fait pendant 5 minutes, il dit je sais quelle question vous allez poser et je... alors vous allez demander ça et à chaque fois il répond oui non oui non. Il est génial. Et et il a même dit quelquefois, je me dis que c'était pas une bonne idée de venir au Bullet Club, etc. Enfin bref. Mais Cody Rhodes, il est génial en ce moment. Et puis je pense que c'est un gros instrument pour donner pour faire comprendre au public américain ce que ça peut être les rivalités là-bas à la New Japan. Et puis qu'il y a de la matière, que c'est pas juste du show. Donc voilà. Très bon, plutôt bon show et très bonne fin de show. Voilà, c'est tout pour ce catch-up Strong Style Evolved, tout ce que vous voulez, qui a duré donc du coup un petit peu plus longtemps. On vous remercie si vous avez regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas, catch-up, c'est sur YouTube, catch-up... youtube.com/catchupcdc, sur Twitter, twitter.com/catchupcdc. On est en audio sur iTunes ou sur PodCloud. Si une semaine vous pouvez pas regarder YouTube ou si vous préférez nous écouter en audio en faisant du running dans votre voiture, pas du running dans votre voiture hein, parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà. Et on a le supplément SmackDown qui arrive cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de WrestleMania. Et on vous rappelle donc du coup qu'on va couvrir WrestleMania en direct là-bas avec Yerem, Giscal et moi. On va vous donner la programmation sous peu. Je devais faire le teaser ce week-end, mais j'étais malade. Donc voilà, ça va arriver sûrement le week-end prochain.
D'ailleurs, Guillaume s'inquiète de savoir si tu as ton visa qui est prêt.
Mon visa, oui, non, le visa express, c'est pas très compliqué hein, pour les États-Unis. Si vous n'avez pas de casier judiciaire, ça va très vite. ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, il y aura une émission, juste pour vous dire, normalement, il y aura une émission tous les matins pendant au moins 4 jours. Enfin, tous les matins. Donc, du coup, toutes les après-midi pendant 4 jours. Puisque le matin là-bas, c'est l'après-midi ici. Bref. Je remercie Ringside. J'ai oublié. Je remercie.
Mais je t'en prie
d'avoir été là.
Merci aux auditeurs surtout.
Et merci aux auditeurs, aux spectateurs, aux musiciens, aux magiciens. on vous souhaite. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer et de cliquer sur la cloche parce que sinon vous n'avez pas de notification quand il y a des nouvelles vidéos et tout ça. Il va y en avoir beaucoup.
Mais mettez pas des pouces vers le bas là, comme le connard là qui vient d'en mettre un. C'est pas possible ça. Parce que je viens sur ta chaîne mettre des pouces vers le bas.
On est super poli. Hein. On est super best for business. Bref, écoutez, lui en voulait pas, il est en procès avec la WWE. Bon, allez, gros bisous et bonne semaine pleine de catch. Salut.
Ciao.